Art, culture et patrimoine.
Une émission présentée par Christelle de Limerville.
Connaissez-vous le bourg de Livray-la-Touche au nord de Cran ? La vie de cette commune a été évoquée il y a quelque temps sur nos antennes par Samuel Pécaud lors de son émission Parole de maire. Alors aujourd'hui, je vous emmène sur le terrain pour y découvrir toutes les richesses de son histoire et de son patrimoine. Et pour nous guider, j'ai à mes côtés Geneviève Culin. Bonjour madame.
Bonjour madame.
Vous êtes membre du conseil municipal de Livray-la-Touche. Comment a commencé toute cette histoire d'intérêt pour le patrimoine de votre commune ?
Alors ça a commencé sur le précédent mandat, c'est-à-dire qu'avec le maire et le conseil municipal, on s'est dit qu'il y avait des gros travaux à faire dans le centre-bourg, en particulier enterrer les lignes électriques, etc., refaire le sol du centre-bourg et refaire la place de l'église, puisque l'église est juste au centre du village. Donc ça, ça a occupé toute une mandature. Dans un deuxième temps, on s'est dit que cette église, il fallait commencer à s'en occuper parce qu'elle était magnifique, que des travaux d'urgence étaient faits très régulièrement par le conseil, mais que là, on avait des travaux de fond à entreprendre. Donc voilà comment c'est venu. Et ça s'est accéléré, je dirais, il y a 18 mois, 2 ans, quand on a décidé d'ouvrir l'église pour les journées du patrimoine. La première ouverture, c'était l'année dernière, donc en 2017, et la seconde, cette année, où on en savait beaucoup plus sur cette église.
Alors nous entrons dans cette église qui est bien grande, ma foi, pour l'ensemble du village. Ça fait vraiment très grande église, hein, très large. Racontez-nous un peu l'histoire de cette église.
Au départ, Livray était un tout petit bourg, au XIe siècle, XIIe. C'était un tout petit village qui avait un centre principal, mais surtout qui avait 6-7 prieurés répartis dans la forêt, puisque la région était une énorme forêt entre Cran et Ballot. Donc, Robert d'Arbrissel, qui a fondé Larreau et qui a fondé Fontevraud, que vous devez connaître, s'est dit, il faut mettre une église ici. Il a construit l'église de Livray-la-Touche, mais qui n'est absolument pas celle que vous voyez aujourd'hui. La première étape de la construction de cette église avec Robert d'Arbrissel, vous la retrouvez dans la nef principale. Parce que l'église d'origine, c'était une grande nef avec un chœur en abside. Une grande nef, donc, avec des murs de chaque côté et pas du tout les piliers que vous voyez aujourd'hui. Et des toutes petites ouvertures qui apportaient un peu de lumière à l'ensemble du bâtiment. Et puis, entre le XIIe et le XVIe siècle, la population a augmenté, la population religieuse a beaucoup augmenté. Donc, les prieurs de l'époque, puisque c'était devenu un prieuré qui dépendait de Larreau, les prieurs de l'époque se sont dit « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et là, ils ont décidé d'agrandir l'église. Alors, comment est-ce qu'ils l'ont agrandie ? Eh bien, ils ont pris sur le côté sud, c'est-à-dire le côté qui va vers Cran, et à ce moment-là, ils ont construit une grande chapelle, qui s'appelle maintenant la chapelle Sainte-Anne, qu'ils ont ouvert par rapport au bâtiment d'origine par des piliers et des arcs romans, parce qu'ils ont voulu rester dans l'esprit de l'église d'origine. En même temps, ils ont ouvert les vitraux, mais on en parlera plus tard. Et puis, la population religieuse augmentait, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Le prieuré à côté était un prieuré très florissant, puisqu'il y a eu, à un moment donné, une dizaine de prêtres dans ce prieuré, ce qui était quand même énorme. Au XIXe siècle, à ce moment-là, Livray n'était plus un prieuré. C'est un abbé qui s'appelle l'abbé Marcellier, qui s'est trouvé avec cette église, qui était encore trop petite pour la population de l'époque. Là, on est au XIXe siècle. Donc, quelle décision il a prise ? Ben, il s'est dit, je vais agrandir. Et il a agrandi par le côté nord. Et là où il a eu un souci, je dirais, esthétique primordial, c'est qu'il a voulu faire exactement la réplique du côté sud. C'est-à-dire qu'il a mis des piliers, des arcs romans et des chapelles qui permettent d'ouvrir les vitraux. Au milieu, vous êtes au Xe siècle. À droite, vous êtes 15e, 16e. Et à gauche, vous êtes 19e. Mais tout ça dans une harmonie étonnante.
Oui, c'est un vrai cours d'architecture, en fait, un cours vivant d'architecture.
Que vous voyez que le sol est un sol en marbre gris et beige, ce qui est assez rare dans une petite église de campagne, tout de même. Et en fait, c'est parce que, dépendant de Larreau, Larreau, à la fin du XVIIIe, a dit à Livray, écoutez, votre sol en terre battue et petite tomate, ça correspond pas au standing de Livray, il vous faut un beau sol. Et à ce moment-là, le prieur a commandé un sol en marbre qui vient de Sablé.
Alors,
qu'est-ce que vous nous proposez ? Nous avançons dans la nef principale et nous marchons donc vers le chœur.
Le chœur est particulièrement intéressant. C'est un chœur qui, bien entendu, est 19e parce qu'il date de la dernière époque de la rénovation de l'église. Et l'autel et le tabernacle ont été faits par un artiste polonais qui s'appelle Dymkowski. Et Dymkowski est un Polonais émigré au 19e qui est arrivé à Paris et qui s'est inscrit aux Beaux-Arts de Paris. Et qu'est-ce qu'il a rencontré aux Beaux-Arts de Paris ? Allôme. Allôme étant l'artiste qui a fait beaucoup de vitraux dans la région. Et Allôme lui a dit, quand il a terminé ses études, « Mais viens en Mayenne, il y a du travail. » Et c'est comme ça que l'hôtel et son décor ont été confiés à Dymkowski. En sachant qu'au passage, il a épousé la sœur d'Allôme, donc ça a créé des liens. L'hôtel est surmonté de palmes pour l'exposition du ciboire et a dans chaque petite niche en bois doré des statues qui sont Saint-Paul et Saint-Pierre.
Alors l'hôtel est en pierre en dessous, mais tout ce qui fait partie du rétable en quelque sorte et du tabernacle, tout est doré, en bois doré, avec des grappes de raisins qui courent le long. Et puis une espèce de couronne tout en haut, dorée aussi.
En haut, vous avez un oculus qui permettait d'éclairer l'autel et le rétable en lumière naturelle. Mais l'oculus a dû être fermé dans une des réparations du toit, je pense. Mais le rêve que nous avons, c'est de le rouvrir. Mais il y a d'autres priorités avant.
C'est très particulier au 19e, ça, les oculus. Même dans des chapelles, on en trouve qui surmontent des statues et qui donnent une lumière indirecte, en fait.
Autre chose intéressante, c'est le rétable qui est derrière. C'est l'Assomption. Donc on voit la Vierge qui monte au ciel, le Seigneur qui l'accueille et des anges qui encensent, etc. Alors il était très contesté au départ, mais bon, moi je le trouve assez magnifique. Il a besoin d'une très grosse restauration, mais il est magnifique. Et il a été fait à Angers par l'artiste qui s'appelle Simon, Jean-Baptiste Simon. Alors sur les côtés, au départ, dans l'église d'origine, vous n'aviez pas de vitraux, vous aviez des statues. Et quand au 19e, tout a été refait, des vitraux ont été rouverts.
Ici, on voit une signature Carmel Dumand. Et ça, au 19e, il y a eu beaucoup, beaucoup de vitraux réalisés par cet atelier.
En sachant que cette église, elle a été pillée, vandalisée, profanée, mais d'une façon honteuse. Heureusement, on a le 19e qui est là, mais tout ce qui était avant a été massacré.
Et spécialement à la Révolution ou tout le temps ?
Tout le temps. Alors, je vais vous montrer un petit secret. Ici, sur le côté, à un moment donné, c'était tellement profané que le prêtre responsable de cette paroisse a décidé de créer un tabernacle fort. Alors, un tabernacle fort...
Comme un coffre-fort.
Exactement, comme un coffre-fort. Alors, je vais vous montrer, parce qu'on l'a ouvert très, très récemment.
Voilà. On ouvre un morceau de boiserie et on a un coffre en bois avec une clé et une étagère.
Et le ciboire, les hosties...
Alors, quand nous sommes au niveau de l'autel principal dans le chœur et qu'on se retourne vers la porte d'entrée, qu'est-ce qu'on voit sur notre gauche, sous un arc, une petite porte qui est fermée, qui ressemble à un placard, mais en fait, pas du tout.
C'est pas du tout un placard. Enfin, aujourd'hui, c'est un placard. Mais historiquement, c'était la place du prieur pour suivre les offices. C'est-à-dire que c'est un prieuré. Il avait un passage personnel du prieuré jusqu'à l'église. Il entrait par une petite porte sur le côté. Il s'installait dans cette niche pour suivre l'office sans être vu des fidèles qui étaient là. Je vais vous montrer quelque chose d'autre, c'est la sacristie d'origine. Je vous ai expliqué tout à l'heure que la construction avait été faite en 3 étapes. Donc la 2e étape, c'était la chapelle qu'on appelle la chapelle Sainte-Anne, que vous voyez là, parce qu'il y a une chapelle qui lui est dédiée. Et il y avait la sacristie. Au 16e siècle, ils ont fait la sacristie. La sacristie a une porte absolument magnifique, en bois sculpté, qui est absolument étonnante. Mais quand on entre, quand on voit ce qu'elle est devenue, on est effrayé. Je vais vous ouvrir.
Ah oui, donc entomettes, des vieilles pierres, des enduits qui tombent.
Oh, ce qui est amusant, c'est que dans la sacristie d'origine, vous avez les placards à bannières qui sont complètement dans leur jus. Les bannières sont toujours là pour les processions. C'est magnifique, oui. Simplement, c'est dans un état qui est effrayant. On se rend compte de l'urgence des travaux qu'il y a à faire.
Oui, mais il y a encore beaucoup de belles choses, donc c'est très motivant.
Il y a des très beaux éléments. Ce monument, il raconte plein de choses, mais il y a beaucoup de travail. Au XIXe siècle, quand ils ont agrandi par la chapelle Nord, ils ont construit une nouvelle sacristie, qu'on peut aller voir d'ailleurs. Ils ont voulu la faire exactement symétrique à la première sacristie. Donc la porte est identique, mais ils devaient avoir pas tout à fait assez de budget. Donc la grande frise en bois du bas n'a pas été reportée sur l'autre porte. Et vous allez voir une très belle sacristie du 19e avec des placards tout autour des murs. Et...
Ah oui, 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 c'est une belle sacristie avec ses beaux placards. Oui, oui. Les grands tiroirs pour les ornements.
Plus récente, donc en meilleur état que l'autre.
Les fonds baptismaux aussi, alors ?
Les fonds baptismaux reflètent complètement l'histoire de l'Église. Il y a un premier fonds baptismaux qui est là, qui est installé côté sud, qui est en gros grès. On dirait une baignoire d'enfant. En fait, c'était l'époque où, pour le baptême, on immergeait le petit baptisé avec un trou pour l'évacuation de l'eau. C'est pas le Jourdain, mais ce sont vraiment les premiers baptêmes immergés. Et on a un second qui est un fonds de baptismaux complètement 19e, qui vient de l'époque où on a rénové l'église et on l'a installée avec beaucoup de richesses. Ce sont des fonds baptismaux en marbre qui sont absolument magnifiques.
Mais en effet, ces fonds baptismaux en granit énorme, c'est comme une baignoire carrée, oui. Il y a même, vous disiez, un emplacement pour mettre les petites mains pour se relever.
Un emplacement pour mettre les mains. Il y a un emplacement pour mettre les mains de chaque côté. Oui, c'est étonnant. Et on voit avec ces deux fonds baptismaux l'évolution de la liturgie du baptême. C'est une église qui a gardé les traces de cette évolution. Même si elle n'est pas dans un style unique et pur, elle a gardé toutes les traces de l'évolution. On a beaucoup de chance. On a gardé notre chaire qui est d'époque 17e. Elle est magnifique, alors que dans beaucoup d'églises, les chaires ont disparu. Nous, on l'a toujours. D'autre part, avant, il y avait la Sainte Table pour la communion, qui ont été supprimées après Vatican II. Bon, nous, on a gardé la grille de la Sainte Table. Elle est très belle. Donc, il y a eu un souci de garder les choses au fur et à mesure de l'évolution de l'Église et des liturgies. Mais je vous vois étonnée par l'escalier qui est là. En fait, c'est l'escalier du clocher. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas un escalier d'origine du tout, du tout, du tout. Au départ, on avait une échelle en bois et assez haute, et puis on montait au clocher, clopin, clopin, on y arrivait et on faisait ce qu'il y avait à faire. Et puis, dans les années 1900, il y a un ferronnier de Cran qui s'appelait M. Charbonnier et qui a dit au curé, écoutez, ce n'est pas digne de livrer une échelle en bois comme ça, ce n'est pas possible. Je vais vous faire quelque chose qui permet de monter plus sérieusement au clocher. Le conseil a dit ok, bon, et puis il est revenu un an après, à peu près, en disant, ben voilà, et il a monté cet escalier. Donc l'escalier est 1920. Mais il est assez fantastique dans son genre. Il détonne complètement par rapport à l'ensemble de l'Église. Moi, c'est une étape, une preuve d'attachement des gens de la région à l'Église.
C'est un escalier en fait en colimaçon, tout en fer forgé avec des marches en bois. Très, très années 20. Vous êtes bien sur Fidélité Mayenne. Nous sommes toujours dans l'église de Livrée-la-Touche en compagnie de Geneviève Culin qui nous en fait découvrir toutes les beautés. Donc nous avons vu l'architecture, nous avons vu l'hôtel principal et là vous voudriez me parler de statues un peu étonnantes et assez rares.
C'est un hôtel secondaire, c'est celui qui est à droite de l'hôtel principal qui est l'hôtel de Sainte-Anne. Donc vous avez une représentation très étonnante de la Vierge qui est Notre-Dame des Moissons. Ce qu'elle a d'intéressant, c'est que dans la base, elle a tous les symboles des moissons, c'est-à-dire un fléau, des épis de blé, etc. On peut le voir en détail, mais c'est la seule que je connaisse. Et alors, de l'autre côté du chœur, au côté nord, vous avez la chapelle de la Vierge, avec une autre statue étonnante, c'est Notre-Dame des Armées. Dans la représentation de Notre-Dame des Armées, vous avez dans le socle de base une représentation de la Légion d'honneur et de la croix de la Légion d'honneur. Donc on sait qu'on peut dater en disant que c'est d'après 1802, mais la date exacte, on ne peut pas la donner. En faisant visiter Journée du patrimoine le week-end dernier, il y a eu un petit moment d'émotion parce qu'une des personnes m'a dit « Ah, cette statue de Jeanne d'Arc, c'est mon grand-père qui vous l'a donnée. » Bon, c'est pas pour moi, enfin c'est pour l'église. Alors j'ai dit « Comment est-ce qu'il vous l'a donnée ?» Il avait promis au curé que s'il revenait de la guerre vivant, il lui donnera une statue. Il est rentré vivant et il a offert la statue de Jeanne d'Arc à l'église.
Ça montre bien, oui, que l'église, c'est l'église de tous, puisque tout le monde, d'une manière ou d'une autre, participe à sa décoration selon des vœux ou selon des... C'est comme un ex-voto, finalement.
Oui, c'est ça.
Alors, nous allons observer et essayer de vous décrire les vitraux, les grandes baies vitrées qui ont été réalisées par Auguste Allôme.
Plein sud. Alors, plein sud, ce sont les saints jésuites. À gauche, vous avez Saint Stanislas. Au milieu, vous avez Saint Louis de Gonzague. Et à droite, Saint Jean. Mais je n'arrive pas à lire. Bertram. Ou... Alors, il y a une petite bagarre qui s'est passée entre Cran et Livré-la-Touche. Parce que Cran a aussi commandé des vitraux d'Allôme exactement à la même période pour Saint-Clément. Dans le livre que tenait à jour l'abbé sur l'histoire de l'Église, j'ai cru comprendre que Livré était très fier parce que les premiers posés ont été ceux de Livré.
1893, on arrive à bien lire, oui. Et de l'autre côté,
donc plein nord, d'Allôme aussi, vous avez le vitrail des archanges, donc vous avez Saint Gabriel, Saint Raphaël et Saint Michel. Alors, les deux autres vitraux du bas de l'église sont, pour l'un, je pense, c'est Saint Victor. J'ai jamais trouvé une relation entre Saint Victor et l'église Notre-Dame de l'Assomption. Je pense que c'était le saint d'un donateur. Le vitrail a été fait au Carmel du Mont. Et l'autre, c'est le baptême du Christ.
Quand on est en haut de la nef et qu'on se retourne, on voit que le portail principal de l'entrée de l'église est surmonté par une grande fenêtre en trois baies. Magnifique.
C'est celui qu'on appelle le vitrail du rosaire. Donc il y a tous les éléments du rosaire de la vie de la Vierge et du Christ.
Donc toutes les scènes de la vie du Christ et de la vie de la Vierge dans des petits médaillons. Et l'ensemble fait vraiment un peu orfèvrerie, c'est magnifique, la dentelle un peu on dirait.
Cette église c'est un mélange de rusticité et de grand raffinement, partout.
Et alors on voit même quelques restes du Moyen-Âge ou peut-être du 12e, des visages de grotesques là en pierre sculptée.
La première ouverture de l'église par le côté sud, ils ont fait tomber entre guillemets le mur de cette église, qui était le mur extérieur-intérieur. Ils l'ont remplacé par des piliers. Ils ont fait des ouvertures en arc roman. Et en haut des piliers, ils ont fait une sculpture de grotesques et de feuillages qui font le tour du pilier.
Et maintenant, Geneviève Culin, vous nous proposez d'aller du côté du prieuré, c'est-à-dire l'extérieur de l'église, côté nord. Nous ressortons de l'église de Livré. Nous sommes à l'entrée à l'ouest, hein. Façade d'origine avec des gros contreforts bien lourds et une jolie porte en ogive que l'on croirait presque romane, qui a été rapportée, vous me disiez, Geneviève Culin.
La porte d'origine, on en voit les traces puisqu'il y a encore une sculpture en râteau qu'on aperçoit sur le côté gauche et en haut, dans les pierres. Mais quand l'église a été agrandie au XVIe siècle, ils ont voulu changer la toute petite porte et mettre une porte plus importante. Ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas construit une nouvelle porte, ils ont récupéré une porte, on ne sait pas d'où encore, peut-être qu'un jour on le saura, et ils l'ont posée là. Par contre, ce qu'ils ont gardé, c'est ce qui s'appelle le larmier. Le larmier, c'est une grosse moulure en pierre qui fait tout le tour du cintre de la porte et qui évitait, quand il pleuvait beaucoup, que l'eau tombe en rideau sur les fidèles qui sortaient de l'église.
Un joli nom, larmier.
Oui.
Donc nous passons dans une grande cour par une petite porte qui est à gauche de l'église. Il y a un joli bâtiment sur notre droite, une partie 18e.
Alors, en fait, c'était le prieuré, à l'époque où Livré était un grand prieuré. Le prieuré a été construit en deux étapes. La première à droite, qui est fin 17e, 18e. Et de ce prieuré, il y avait un petit couloir qui était construit par l'abbé Marcelier et qui conduisait par la petite porte qui est là, directement dans le cœur de l'église. C'est une époque où il y avait beaucoup de prêtres. Et le prieuré a dû être agrandi. Donc vous voyez, il était agrandi par la partie gauche. On voit très bien que le prieuré a été construit en deux étapes, puisque en façade, il y a des fenêtres, des entourages de fenêtres qui sont en grès roussard, donc très très anciennes, et d'autres qui sont en tuffeau. Mais le prieuré, c'était une activité agricole complète. Et le petit bâtiment que vous voyez là-bas, en fait, c'était l'écurie, les tables, enfin, ça servait à tout. Et par derrière, vous aviez le potager, la pièce d'eau, etc., etc., pour pouvoir vivre, les volailles et tout, et tout. À Livré-la-Touche, tout à fait au début, c'est-à-dire fin du XIe siècle, il y avait 7 prieurés dans la forêt. Il faut savoir que c'était des tout petits prieurés, mais que l'abbé de ces prieurés avait une double fonction. La fonction d'éducation religieuse, mais la fonction d'enseignement aussi. C'est-à-dire, il faisait absolument tout. Bon, ces prieurés, petit à petit, ont disparu. Ils avaient quand même chacun autour d'une trentaine de personnes. Et tout ça perdu dans la forêt. Et Robert d'Arbrissel et ses fidèles ont petit à petit fait une déforestation, transformé la forêt en terre agricole, et les prieurés ont disparu. Mais il reste 2 traces de prieurés. Une sur la route de Cran, à Blochet. Vous voyez une toute petite chapelle qui est 19e, et vous la voyez dans un petit enclos qui est plus important que la taille de la chapelle. Et en fait, l'enclos que vous voyez est la base des murs de la chapelle précédente, du petit prieuré, donc. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que Robert d'Arbrissel, il était prêtre, mais il était fils de prêtre. Et il était marié, parce qu'à l'époque, les prêtres étaient mariés. Et c'est, je crois que c'est le concile de Latran, enfin les différents conciles de Latran, qui ont posé la base de la religion d'aujourd'hui, avec des prêtres célibataires.
Il y a d'autres traces de prieurés après celui dont vous venez de me parler ?
Il y a celui du Bourgneuf, dont il reste une toute petite chapelle votive, mais vraiment toute petite, qui n'était pas à cet endroit-là, qui a été reconstruite parce que les gens y étaient très attachés. Elle a été reconstruite à quelques mètres du prieuré d'origine, donc c'est une chapelle dédiée à la Vierge et c'est tout ce qu'il en reste. Les autres, il n'y a pas de traces du tout. C'est-à-dire ce sont des bâtiments qui ont été soit transformés en bâtiments agricoles, soit laissés à l'abandon et qui ont disparu.
Et alors, quand on est à l'extérieur de l'église et puis qu'on arrive dans le cimetière qui est donc mitoyen à l'église, ce qui est rare, oui, on situe beaucoup mieux les diverses époques de construction. Et puis il y a ce magnifique clocher, vous dites donc un clocher lanterne.
Oui, c'est un clocher lanterne avec une surélévation au-dessus de l'architecture de base et des ouvertures en bas pour les cloches.
Sur une grosse tour carrée avec des contreforts très hauts.
Et là, vous avez le chemin de la procession sur le côté qui a été remblayé pour que les fidèles puissent faire le tour des processions tout autour de l'église sur un sol qui soit carrossable, disons. Donc, vous avez ce remblai qui a été fait côté nord qui nous pose quelques problèmes maintenant parce qu'on a l'impression que l'église sert de point bas et toute l'humidité descend dans l'église. Et voilà la petite porte qui passait du prieuré et qui allait dans l'église.
Oui, il reste encore tous ces petits signes qui nous permettent de bien comprendre l'organisation du prieuré et de son église. Et puis le cimetière qui est toujours là, collé à l'église, qui est rare maintenant.
Il a été agrandi d'ailleurs récemment, il y a une vingtaine d'années. Avant, il s'arrêtait ici et puis ils l'ont agrandi d'une dizaine de mètres. Ils ont exproprié le terrain qui était de l'autre côté. Il y a quelque chose de très drôle aussi, c'est que la personne qui a donné le terrain pour faire le cimetière au pied de cette église a demandé que soit élevée une croix au milieu du cimetière et que cette croix soit entretenue en permanence. Donc on a une croix qui est alignée sur rien du tout, qui est là avec le nom du donateur. Et on vit de cette donation depuis, 3 siècles.
Nous sommes à la fin de notre visite de Livré-la-Touche, notamment son église et son prieuré. Merci beaucoup Geneviève Culin de nous avoir permis de déambuler dans ce très joli endroit que je vous conseille d'aller visiter, pas seulement aux Journées du patrimoine. Et c'est vraiment un village à découvrir. Et nous pouvons profiter de cette émission pour lancer un petit appel à l'aide.
Un petit appel à l'aide, oui, parce que les travaux sont très très lourds pour la commune. Donc on fait appel à tous les généreux donateurs qui pourraient nous aider tant pour la première étude que pour les travaux à venir.
Merci beaucoup.
À très bientôt, au revoir.